Ils étaient 870 000 enseignants hier à faire leur pré-rentrée. Ils seront 12,4 millions d'élèves lundi matin à reprendre le chemin de l'école, du collège et du lycée. Une rentrée en fanfare pour le ministre qui la souhaite en musique, comme depuis 3 ans maintenant, et qu'il a placée sous le double signe du changement et de l'apaisement, même si quelques fausses notes pourraient rapidement se faire entendre tant certains personnels sont inquiets et se préparent à la riposte. Jean-Michel Blanquer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, monsieur le ministre. Il paraît que vos vacances en Bretagne vous ont ressourcé. On est à 2 jours de la rentrée des classes. Est-ce que vous êtes toujours aussi apaisé que lors de la conférence de presse mardi, malgré l'annonce de ces quelques chahuts à venir ?
Oui, je suis très apaisé parce que je pense qu'on a d'abord une rentrée bien préparée. Je le vois par bien des éléments, que ce soit dans mes visites ou dans mes analyses. Et puis d'autre part, on a une rentrée très stimulante sur le plan des changements que vous venez de rappeler. Ce qui me frappe, c'est que souvent quand on en parle sous l'angle des inquiétudes, sous l'angle des questions, ce que je peux comprendre, mais on oublie de rappeler le sens. On n'a pas fait ça pour simplement le plaisir de changer les choses. On a fait ça parce qu'on répondait à des problèmes qui étaient soulevés, à des modernisations qui étaient nécessaires et surtout à des renforcements du niveau de nos élèves qui sont indispensables. Et donc le sens de cette réforme va se donner à voir en cette année de première. Vous savez, vous aurez des premières qui seront dans la réforme, puis des terminales qui ne le seront pas. J'invite chacun à faire discuter des élèves de première et de terminale pour comparer ce qu'ils pensent des choses.
Ça, c'est pour la réforme du lycée.
Pour la réforme du lycée, puisque tout simplement, les nouveaux élèves de première ont eu beaucoup plus de choix. Hier, j'étais avec le Premier ministre dans un lycée du Var, où d'abord, j'ai vu des professeurs apaisés, avec beaucoup de questions, et c'est parfaitement normal qu'ils aient des questions.
Puisqu'on entend que c'est un casse-tête pour les emplois du temps, mais c'est la première année, c'est la mise en place.
On a beaucoup dit ça, et je comprends aussi qu'on dise, en réalité, par exemple, dans ce lieu-là, la proviseure m'a dit que ça avait été plus facile que les années précédentes. Et que surtout, ça permettait beaucoup plus de souplesse, et ça lui avait permis de faire bien des choses qu'elle voulait faire depuis longtemps. Elle avait, dans son lycée, 42 combinaisons. Hein, au lieu des 3 séries, 42 combinaisons. Vous aviez plus de la moitié des élèves qui avaient choisi des combinaisons qui n'existaient pas auparavant. Donc, il faut d'abord souligner ça, c'est le sens de cette réforme, c'est-à-dire permettre aux lycéens d'avoir plus de choix, et ayant fait des choses qu'ils ont réellement choisies, eh bien ils les approfondissent davantage, parce que c'est vrai, et je l'assume parfaitement, on a des programmes qui sont plus exigeants, et qui vont plus loin, et qui les préparent mieux au futur, donc c'est à la fois l'objectif d'élévation du niveau général, mais aussi de justice sociale qui, comme sur chaque réforme, sont les objectifs visés.
Vous vous êtes assez déjà largement exprimé, monsieur le ministre, d'abord lors de votre conférence de presse de mardi, chez nos confrères de la presse écrite et audiovisuelle, hein, sur les différents axes forts de cette rentrée, sur les différentes mesures que vous avez prises et ces réformes que vous venez d'évoquer rapidement, en tous les cas pour ce qui concerne la réforme du lycée. Vous connaissez les critiques et je crois qu'on les connaît un peu tous. Donc je voudrais vous demander ce que veut dire apaiser, parce que au-delà du mot apaiser, on sent que vous êtes très très prudent. Comment comptez-vous aborder les choses? Votre fin d'année, avant les vacances, avant l'été, a été plutôt agitée. Comment vous préparez-vous? Qu'est-ce qui va se passer, par exemple, si les choses s'enclenchent mal? On parle de grève, on parle de manifestations possibles. Qu'est-ce que vous comptez faire?
Non, mais je crois qu'il faut mettre les choses en perspective. Même quand vous parlez de la fin de l'année scolaire qui a eu lieu. C'est vrai que ça a été difficile, le sujet de la correction du bac, mais c'était 2000 personnes sur 200 000 correcteurs. Et moi, ce qui m'interroge, si on est en démocratie, en République, c'est la chambre d'écho trop forte que l'on donne à ceux qui ont envie de créer du désordre. Et effectivement, ça existe, mais c'est tout à fait minoritaire. Donc, si je suis apaisé, c'est parce que je vois des centaines de professeurs en permanence, que j'écoute, que je fais attention, et que je vois bien que l'immense majorité des professeurs n'est pas dans un état d'esprit de créer du désordre. Ils veulent tout simplement que les élèves progressent, ils veulent que l'on avance, que notre pays avance, et ça passe par des démarches constructives. Ce qui me rend encore plus apaisé, c'est que j'ai discuté avec les organisations syndicales et que je les vois elles aussi dans un esprit constructif. Alors avec évidemment des revendications, des questions, mais c'est pour le coup c'est normal. Et donc je trouve que nous devons être dans un état d'esprit d'une démocratie qui avance par la discussion et pas par des cris ou des rapports de force qu'on essaye d'installer de la part de minorités très agissantes.
En cette rentrée, vous mettez en avant, il y a beaucoup de mesures, mais vous mettez en avant deux grands grandes réformes. Il y a celle de l'école élémentaire avec la multiplication du dédoublement des classes de CP et de CE1 qui va concerner 300 000 élèves cette année. Et puis de l'autre côté, cette réforme du lycée avec la suppression des filières et le nouveau bac. Or globalement, Jean-Michel Blanquer, quand on entend les problèmes posés, soulevés en général dans notre système, on relève deux choses. On relève d'abord le problème des inégalités et le fait que l'école de la République ne donne plus autant de chances à tous ses enfants. Et puis le deuxième point qu'on entend beaucoup dans les critiques qui sont émises envers notre système scolaire, c'est que c'est un système dans lequel l'enfant ne s'épanouit pas. Est-ce que vous pensez que ces réformes, par exemple ces deux grandes réformes que vous mettez en avant cette rentrée, vont contribuer à changer les choses dans ces deux grands domaines?
Ah oui, on a vraiment une illustration très forte. D'abord, la mesure à l'école primaire, qui est une mesure fondamentale, c'est le dédoublement des classes de CP et de CE1, a quelque chose de totalement inédit. C'est pas du tout cosmétique ou superficiel. On parle de 300 000 enfants. Et ça va aller encore plus loin, puisque le président de la République s'est engagé dans sa conférence de presse du 24 avril à ce que l'on fasse la même chose pour les grandes sections. Et ça sera donc 450 000 enfants à la fin du quinquennat. Mais déjà, 300 000, ça signifie 150 000 CP, 150 000 CE1. Donc 20% d'une génération. Et ces 20% coïncident avec les 20% des territoires les plus défavorisés. Donc le chemin que nous avons pris depuis deux ans, c'est celui de réussir quelque chose qui n'a jamais été réussi dans aucun pays au monde, c'est-à-dire d'en finir avec les écarts de résultats qu'on constate entre les territoires les plus défavorisés et le reste du pays. Si nous réussissons cela, nous réussissons quelque chose d'inédit en matière de lutte contre les inégalités. Donc c'est vraiment une illustration très forte, mais pas la seule, du fait qu'on prend à bras le corps ces sujets que vous avez évoqués, et en premier rang desquels les inégalités, en combattant à la racine le problème. C'est pourquoi j'ai tout de suite dit que l'école primaire serait une priorité, que nous en avons fait une grande priorité budgétaire aussi, puisque nous créons des postes alors qu'il y a moins d'enfants à l'école primaire en ce moment pour des raisons démographiques. Donc c'est du volontarisme social à grande échelle qui se produit là. Il est aussi au bénéfice de tous, puisque nous allons avoir une limitation du nombre d'élèves par classe à 24, en grande section, en CP et en CE1, dans l'ensemble du pays. Là aussi, d'ici à la fin du quinquennat. Donc, cela signifie que j'ai reconnu qu'il y avait un enjeu de taux d'encadrement pour les premières années de la vie scolaire, c'est-à-dire la maternelle, le CP, le CE1, avec une priorité pour les territoires les plus défavorisés, mais de façon générale, une vision pour la France du fait que si nous voulons à la fois élever le niveau général et combattre les injustices, il faut aller à la racine, et on sait très bien que les premières années de la vie, l'école maternelle, le CP, le CE1 sont absolument des années décisives, et sans parler des politiques de la petite enfance, bien entendu. Et donc, c'est aussi le sens de l'instruction obligatoire à 3 ans qui envoie un message sur l'importance de l'école maternelle à l'ensemble des acteurs de notre pays.
Jean-Michel Blanquer, vous avez écrit des livres qui donnent la philosophie de l'école que vous souhaitez mettre en œuvre en France. Construisons ensemble l'école de la confiance, ça c'est le dernier livre, mais il y en avait eu d'autres avant, comme l'école de demain. J'ai à côté de moi un énorme livre qui vient tout juste de sortir en cette rentrée, qui fait plus de 1000 pages, qui est signé du sociologue Bernard Lahire. Ce livre s'appelle « Enfance, au pluriel, de classe, de l'inégalité parmi les enfants ». Et il va à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues. Il montre que, en fait, tout ne se passe pas à l'école, que beaucoup de choses, et en particulier dans les premiers âges de la vie, se passent dans les familles, au niveau des codes socioculturels, au niveau des acquis dans les familles dès le plus jeune âge. Est-ce que là, on ne s'attaquerait pas à la racine si on allait plutôt sortir finalement de l'école comme étant à la fois quelque chose qui est très important, le rôle de l'école est évidemment rappelé dans un certain nombre de sujets et de domaines, mais malgré tout on voit bien que les inégalités ne se passent pas à l'école, elles sont avant. Donc comment on aborde ça quand on est ministre de l'Éducation nationale? Comment fait-on pour s'attaquer à la racine de ces problèmes? Je vous cite juste une phrase de Bernard Lahire, il dit « Le destin d'un enfant ne relève pas d'un geste individuel mais de dispositifs d'aide ou de soutien structurel. Faire sérieusement de la politique, c'est changer les déterminismes qui pèsent sur nous. » Alors, que vous considérez que l'école peut encore permettre d'échapper aux déterminismes sociaux?
Bien sûr. Et tout ce que vous venez de dire, j'y souscris pleinement. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir une vision complète du temps de l'enfant en particulier et de ce qu'il vit. Et c'est pour ça que je m'attache d'ailleurs beaucoup à des sujets périscolaires et extrascolaires. Et c'est aussi pour ça que je suis ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et que nous avons commencé à prendre des mesures comme le plan Mercredi, qui soutient les collectivités locales, les communes, pour proposer à tous les élèves, et notamment aux plus défavorisés, des activités pertinentes le mercredi dans le domaine de la nature, du sport, de la culture. Donc, il est tout à fait exact de dire cela, parce que si on regarde le temps passé à l'école comparé au reste du temps, c'est évidemment un temps minoritaire. Et je connais bien des équipes en éducation prioritaire qui font un travail merveilleux, mais ce travail fait jusqu'à 16h ou 17h se défait après pour des raisons de circonstances urbaines, pour des questions de circonstances familiales, et donc on doit évidemment travailler à cette vision complète, et c'est ce que nous faisons justement. J'ai cité l'exemple du plan mercredi, mais c'est cette vision complète, elle nous amène par exemple à avoir une politique d'internat, parce qu'il y a des enfants qui ont absolument besoin de se retrouver dans un milieu différent, celui de l'internat, qui donne un cadre, qui donne aussi des éléments d'épanouissement en dehors de circonstances sociales qui vraiment les empêchent de pouvoir bien étudier. Donc oui, il faut avoir cette vision complète, c'est pour ça qu'on a une vision sociale autour de la vision fondamentale de l'instruction. Il y a, autrement dit, je raisonne par cercle concentrique, hein. Il y a d'abord l'instruction, faut jamais l'oublier, autrement dit à l'école primaire, savoir lire, écrire, compter, respecter autrui, tous ces éléments qui sont au cœur de ce que nous avons.
Oh, mais ça, tout le monde est d'accord.
Tout le monde est d'accord.
Je pense qu'aucun
enseignant
vient d'avoir dit, ils travaillent tous à ça.
Je dis ça parce que on doit jamais oublier la mission fondamentale de l'école, parce que si on l'oublie, tout le reste ne fonctionne pas. Et puis le deuxième cercle concentrique, il est plus éducatif, c'est autour de ce qui se passe pour l'enfant à l'école et autour de l'école. Et puis, il y a même un troisième cercle qui est social, qui est ce qui se passe pour les familles. Ça renvoie aux politiques familiales, mais ça renvoie aussi à des politiques comme les politiques de l'internat que j'évoquais, ou encore la politique que nous avons entamée avec Julien de Normandie, qui consiste à créer des cités éducatives, donnant des moyens, par exemple, à un principal de collège ou à un maire, de pouvoir dégager des moyens pour soutenir des familles parce qu'elles sont repérées comme ayant des besoins spécifiques dans un territoire donné, pour pouvoir mener des opérations comme le petit déjeuner gratuit que nous avons initié cette année, ou le déjeuner à 1 €. Toutes ces questions sociales, purement sociales, sont évidemment autour de l'école, et on doit les regarder de manière cohérente, et là aussi dans un esprit d'unité nationale, parce que c'est un enjeu de lien souvent entre l'État, les collectivités locales et les associations, mais aussi dans un esprit rigoureux et pragmatique. C'est-à-dire rigoureux, c'est-à-dire ne pas se payer de mots, mais aller vraiment sur les sujets qui comptent pour la vie de l'enfant. Et puis pragmatique, parce qu'il faut évidemment tenir compte de chaque situation particulière.
Jean-Michel Blanquer, c'est votre troisième rentrée. Combien de temps vous donnez-vous pour regarder, évaluer la mise en œuvre de vos mesures, pour juger à quel point elles seront concrètes et tangibles ?
Il y a évidemment des résultats à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc tout dépend de ce dont on parle. Si on parle de la consolidation des savoirs fondamentaux chez tous les élèves à l'école primaire, on a des premiers petits résultats intéressants là, et ceux qui en parlent le mieux, c'est en cette rentrée, c'est les professeurs de CE2 de REP+. C'est eux qui vont en parler le mieux plutôt, parce qu'ils auront là des élèves qui viennent de bénéficier pendant 2 ans de conditions privilégiées pour entrer dans la lecture, l'écriture, mais aussi dans les mathématiques et dans la façon d'être élève. Donc on a les premiers bourgeons, nous le voyons bien d'ailleurs. Hein, et puis nous voyons des succès extraordinaires, parce que cette mesure de dédoublement n'est pas qu'une mesure quantitative, s'accompagne de mesures qualitatives sur, par exemple, les méthodes de lecture, la formation continue des professeurs. Et là où ça a été très bien fait, ces nouvelles mesures qualitatives donnent des fruits extrêmement intéressants. Je connais des endroits en France aujourd'hui où vous avez 100% des élèves qui sortent du CP avec réellement une capacité d'écriture. Là où 2 ans auparavant, on était à 50-60%. Donc si vous voulez, c'est évidemment des premiers résultats. Mais les grands résultats structurels, ceux qui se voient dans les classements internationaux, ceux qui portent leurs fruits, prendront évidemment plus de temps. Mais ce qui est important, c'est d'être dans une bonne trajectoire. Je crois qu'on a les premiers signes de cette bonne trajectoire. Mais c'est, disons d'ici à la fin du quinquennat, que l'on verra des résultats plus consolidés. Je pense, par exemple, la question du taux de réussite dans les premières années de l'enseignement supérieur, sous l'effet de Parcoursup, qui permet de mieux affecter les élèves, ou sous l'effet de la réforme du baccalauréat, qui aura permis à des élèves de mieux se préparer à l'enseignement supérieur.
Ce n'est pas encore optimal, mais les choses s'améliorent d'année en année, vous le dites en tout cas.
Oui, moi je connais des professeurs de l'enseignement supérieur, parce que vous savez, il y a toujours un discours de critiques et négatifs sur Parcoursup, mais je connais des professeurs d'enseignement supérieur qui m'en parlent, qui me disent que leurs amphithéâtres de première année ont plutôt bien évolué parce qu'il y a plus d'étudiants qui savent pourquoi ils sont là.
Monsieur le ministre, juste avant la chronique de 8h30, j'ai une dernière question à vous poser à propos de la place, puisque vous y réfléchissez, de l'école dans la société et du rôle de l'école dans la société. Mardi prochain, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, va lancer un Grenelle des violences conjugales. On en parle beaucoup, 99 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leur conjoint. Sur l'égalité des filles et des garçons, en 2017, vous aviez jugé les ABCD de l'égalité qui avaient été mises en place par Najat Vallaud-Belkacem, puis abandonnés en 2015. Vous les aviez jugés mauvais, mais vous affirmiez qu'il faudrait faire autrement pour lutter contre les discriminations et déconstruire les stéréotypes filles-garçons. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, lui aussi en 2017, avait souligné dans un rapport le rôle de l'école pour lutter contre les comportements sexistes. Alors qu'est-ce qui est fait en matière actuellement d'éducation à la sexualité au sens très large du terme? Quel rôle affectez-vous à l'école en cette matière?
Un rôle essentiel, puisque la façon dont le sujet existe à l'école a ensuite un impact sur la vie en général. Donc ça commence par l'école maternelle, justement. Vous voyez, quand on dit l'instruction obligatoire à 3 ans, ça signifie qu'on veut que tous les enfants aillent à l'école maternelle. Aujourd'hui, il y a plus de petites filles que de petits garçons qui ne vont pas à l'école maternelle pour des raisons sociétales. Et puis, appelons un chat, hein, le fondamentalisme islamiste dans certains territoires a fait que certaines petites filles vont à l'école le plus tard possible ou avec une assiduité plus faible. Donc, c'est aussi ce genre de phénomène que nous prenons à bras-le-corps. Donc, ensuite, à l'école maternelle, la question de la relation entre les garçons et les filles va de pair avec ce que nous disons sur le fait de créer un esprit d'équipe dès les premiers âges, une capacité à être ensemble, à se respecter entre garçons et filles. Donc tout cet enjeu-là, évidemment, et que les professeurs connaissent bien, mais qui va être encore plus présent dans leur formation initiale et continue, est très important. En finir avec des stéréotypes de genre qui finalement s'ancrent dans les esprits dans les plus petites années. Tout ceci, donc, en ce moment, fait l'objet de mesures dont nous travaillons.
Les professeurs s'investissent énormément. Beaucoup de professeurs font énormément de choses déjà. Mais la
troisième
question
élément, c'est aussi la question, vous avez évoqué l'éducation sexuelle, qui est encore une dimension supplémentaire. Nous avons, là aussi, j'ai pris une circulaire l'année dernière qui demande de respecter au moins 3 séances par an, demande évidemment de respecter aussi ce qui correspond à chaque âge de la vie. Donc, s'agissant de l'école primaire, c'est beaucoup autour justement du respect des uns par les autres et de la connaissance de son corps. Et puis après, à partir du collège et évidemment ensuite au lycée, on peut être beaucoup plus explicite et être dans une éducation sexuelle qui nous permette de combattre des phénomènes gravissimes que nous voyons aujourd'hui. Je pense notamment à la pornographie sur Internet qui fait que non seulement c'est une entrée dans la sexualité qui est totalement déviante, qui est proposée parfois en première approche à des jeunes adolescents, voire à des enfants, mais en plus c'est évidemment quelque chose qui très souvent nuit au respect homme-femme. Donc ces enjeux-là sont bien entendu vus, travaillés, et nous agissons en ce moment, et en lien étroit avec Marlène Schiappa, pour avancer sur ce sujet. Mais c'est vrai que c'est un énorme phénomène de société que certaines régressions, je dis non seulement des non-progrès, mais c'est ce qui est pire, c'est des régressions dans cette relation garçon-fille. Hier encore, on me parlait du fait que dans la cour de récréation, dans certains endroits, il y avait plus de séparation garçon-fille que dans la décennie précédente. Ce sont donc des sujets extrêmement importants que je prends très au sérieux.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, est l'invité des matins du samedi de France Culture. Il est 8h33. Jean-Michel Blanquer, on n'en est pas à faire des roulements. Votre mot, c'est le dédoublement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On n'en est pas à faire des roulements en France. Mais toute proportion gardée, on manque aussi d'infrastructures et de personnel, ne pensez-vous pas?
Alors, cela dépend de quel lieu on parle et de quelle situation on parle. Il faut aussi, encore une fois, évoquer ce qui va bien. Le bâti scolaire en France a beaucoup progressé depuis une trentaine d'années sous l'effet de la décentralisation. L'exemple typique, le lycée que j'évoquais tout à l'heure, et qui est un magnifique lycée, magnifique campus. Beaucoup d'initiatives sont prises par les collectivités locales. Nous-mêmes, au titre de l'État, nous appuyons cela. Je pense au grand campus professionnel que nous sommes en train de préparer. J'ai parlé de Harvard du Pro pour donner un nouveau prestige, un nouvel élan et contribuer à des nouvelles infrastructures physiques pour l'enseignement professionnel. Donc, on est plutôt dans une situation de progrès en France et depuis un certain nombre d'années qu'en situation de régression.
Bon, il y a 97% des enfants de 3 ans qui vont déjà à l'école. Donc, il y a 3% qui vont entrer avec cette année, avec votre nouvelle mesure. Mais il y a déjà un problème dans certaines académies. Hein. En Outre-mer, en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas suffisamment de bâtis.
Oui, mais ce sont des problèmes qui se posaient auparavant et ça leur permet de mettre l'accent dessus et d'avoir un vrai partenariat avec les collectivités locales pour aller de l'avant. Je rencontre souvent les maires qui souvent ont fait de très beaux efforts pour accompagner la mesure du dédoublement. Et à cette occasion, ils ont été amenés à avoir une réflexion renouvelée sur le bâti scolaire. Par ailleurs, nous avons orienté des aides à l'investissement de l'État vers les communes pour les aider dans ces circonstances. Donc c'est dans une démarche partenariale, volontariste, constructive, que d'une certaine façon nous stimulons par une logique qualitative les nécessaires modernisations du bâti scolaire en France.
Je pourrais vous poser la question de façon plus générale, Jean-Michel Blanquer, que ce soit le développement des classes dédoublées qui pose la question peut-être des effets collatéraux dans les autres classes. Quand on ne recrute pas suffisamment de professeurs, les autres classes pourrait en pâtir. Pense à la fermeture de classe, voire certaines fermetures d'écoles. On peut penser à la suppression, malgré tout, de postes de fonctionnaires. Est-ce que le nerf de la guerre, ça n'est pas, malgré tout, l'argent? Est-ce que vous pouvez vraiment penser rebâtir une école de la confiance, puisque c'est votre vœu, sans investir?
Non, mais bien sûr que nous investissons. L'année prochaine, ce sera plus d'1 milliard d'euros en plus qu'il y aura dans le budget de l'éducation nationale. Donc, bien sûr que nous y mettons des moyens. Et je vous ai dit tout à l'heure, à cette rentrée, par exemple, c'est 2300 postes qui sont créés dans l'enseignement primaire, alors qu'il y a moins d'élèves. Donc, si vous voulez, il y a très peu de pays qui peuvent dire ce que je viens de dire. Souvent, le commentaire public...
il faut le répéter, il faut le vivre, surtout.
Et donc, c'est ce qui m'amène ce qui m'amène à garantir même, que de 2017 à 2022... Chaque mois de septembre, le taux d'encadrement à l'école primaire de chaque département de France s'améliore. Autrement dit, le nombre d'élèves par professeur. Alors après, c'est une moyenne, bien entendu. Il peut y avoir des vécus qui peuvent être un peu différents. Mais pour l'immense majorité des acteurs, cela se traduit par moins d'élèves par classe. Évidemment, ceux qui ont moins d'élèves par classe en parlent moins que ceux qui ont un ou deux élèves en plus. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de vase communicant. Si vous êtes professeur de CE2, que vous avez, mettons, 24 élèves par classe une année, le fait d'en avoir 25, précédemment ils ont été parfaitement préparés, n'est pas votre principal sujet. Votre principal sujet, c'est le niveau de vos élèves, leur capacité à être concentrés, à bien travailler. Mais de toutes les façons, ça n'est pas ça qui se passe. Encore une fois, nous créons des postes. Ces postes nous permettent de faire et le dédoublement des CP et de CE1, et le soutien aux écoles rurales, et la possibilité dans les années à venir de faire ce taux d'encadrement plafond de 24 élèves par classe dans toute la France, en grande section, CP-CE1. Il n'y a jamais eu, je dis bien, je pèse mes mots, il n'y a jamais eu un tel volontarisme pour le taux d'encadrement à l'école primaire en France. Et donc, nous sommes en train de mettre le paquet, parce que c'est vrai qu'il y a une anomalie, et là, j'irai dans votre sens. Cette anomalie, c'est que au cours des 3 dernières décennies, la France a fait un choix qui n'en était pas vraiment un, qui s'est en quelque sorte imposé lui-même et qui a été de sous-investir dans l'école primaire. Nous dépensons moins que la moyenne des pays de l'OCDE dans notre école primaire et plus que la moyenne des pays de l'OCDE.
De la même façon que les professeurs sont moins rémunérés comparativement à nos voisins.
Ça débouche par exemple sur le fait que les professeurs d'école primaire sont aussi moins bien. Quand on compare, c'est surtout à l'école primaire que l'on peut voir qu'il y a un retard français. Donc tout ceci justifie rationnellement, pleinement, la politique que nous sommes en train de mener, qui est de mettre le paquet sur l'école primaire, mais pas non plus en oubliant l'enseignement secondaire. Et d'ailleurs, la réforme du lycée le montre bien.
Jean-Michel Blanquer, qu'est-ce qui vous rend si sûr de ce que vous faites? Est-ce que vous doutez de temps en temps que ça ne marche pas?
Bien sûr.
Avec la responsabilité qui est la vôtre, quand même, qui est considérable.
Le doute est indispensable dans toute fonction que l'on exerce, et j'ai appris à douter tout au long de mon existence, heureusement, et je ne dis pas que tout ce que nous faisons est parfait. Ce qui est important, c'est de ne pas se faire de procès d'intention. Je lutte contre le procès d'intention, c'est-à-dire que notre but, c'est renforcer le service public de l'éducation nationale, notre but, c'est lutter contre les injustices sociales, notre but, c'est élever le niveau général de la population, et donc élever le niveau de notre pays. Voilà, ce sont les buts. Je me permets à personne de dire qu'il y a d'autres buts que cela. Et c'est ce qui parfois me m'inquiète dans le débat public, c'est quand on se fait des procès d'intention, pas seulement vis-à-vis de moi, de façon générale. Moi, je ne doute jamais de l'objectif qu'affiche un interlocuteur. Après, on peut discuter et avoir du débat et du doute sur le chemin que l'on prend. Mais ce qui est important, c'est de créer une union de base dans notre République sur les objectifs poursuivis, et notamment ceux que je viens de rappeler, qui sont des objectifs fondamentaux, républicains, qui, me semble-t-il, peuvent être partagés par tous.
C'est peut-être ça qui est très très difficile avec votre fonction de ministre de l'Éducation nationale, c'est que finalement, chacun d'entre nous, chaque parent, même chaque élève, chaque enseignant, a un avis sur ce qu'est l'école, ou ce que devrait être l'école au XXe siècle, puis maintenant au XXIe siècle. Comment fait-on pour être ministre de 60 millions de Français, sachant qu'ils ont tous un avis différent sur la question, sans être juste le 61 millionième?
C'est une très bonne question. On compare souvent la situation du ministre de l'Éducation nationale à celle de l'entraîneur de l'équipe de France de football, au sens où il y a 60 millions d'entraîneurs
super mental, quoi.
Et 60 millions de ministres. Mais moi, je trouve ça bien. Ce que vous venez de décrire ne me déplaît pas. Je pense que c'est un signe de vitalité. Ce qui serait triste, c'était s'il y avait de l'anomie, s'il n'y avait pas de débat, si tout semblait aller de soi. L'éducation, c'est le sujet fondamental d'une société, parce que c'est le sujet de la transmission des savoirs et des valeurs de génération en génération. C'est le sujet du progrès d'un pays, c'est le sujet évidemment du progrès dans une famille vis-à-vis de ses enfants. Donc c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi d'ailleurs le dédoublement des CP de CE1 emporte une telle adhésion des familles dans tous les territoires urbains et ruraux concernés, parce que c'est ce qui touche à ce qu'on a de plus fondamental dans la vie, c'est-à-dire ses enfants. Et les gens sentent bien que c'est quelque chose de très concret qui les touche. Ils font les comparaisons avec les grands frères et les grandes sœurs qui n'ont pas eu ce dispositif. Donc les gens voient bien que c'est très concret et que ça va dans une direction éminemment souhaitable. Mais après, on en discute. Et moi, je vois énormément de parents d'élèves. Je vais souvent sur le terrain. Et bien entendu, et encore hier, ça m'est arrivé. J'ai parlé avec des professeurs qui m'ont dit des choses très intéressantes, qui m'ont fait douter sur tel ou tel point.
Faut arriver à justement à entendre, écouter, voir toutes ces paroles, toutes ces expériences qui sont extrêmement différentes, parfois même avec des avis contradictoires, et prendre suffisamment de hauteur pour avoir une politique juste et à long terme.
Oui, et pour ça, je pense qu'il faut toujours expliciter le sens. C'est ce que je m'efforce de faire. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'être rattaché à ces enjeux d'objectifs honnêtes et explicites d'une politique publique. En l'occurrence, élever le niveau général et la justice sociale. Et qu'ensuite, on regarde si, en effet, les chemins pris sont adéquats par rapport à ces objectifs poursuivis. Donc le sens, c'est vrai pour l'éducation, mais c'est vrai pour tous les domaines. Il faut toujours savoir pourquoi on fait les choses. Tout à l'heure, lorsque vous m'interrogiez sur la réforme du lycée, j'ai commencé par rappeler le pourquoi de cette réforme du lycée. Encore une fois, c'est pas la réforme pour la réforme. On n'est pas dans le bougisme, on n'est pas dans le fait de vouloir à tout prix changer. Et il y a des choses d'ailleurs que je ne change pas parce que je veux stabiliser, au contraire. Si vous prenez, par exemple, hier, je parlais d'une filière technologique qui s'appelle STI2D, nous la faisons, qui est sur le domaine technologique et industriel. C'est un domaine qui a changé il y a quelques années. Nous stabilisons cela plutôt que de le réformer encore. Bon, mais c'est cette vision, si vous voulez, de savoir apprendre, faire levier dans les domaines qui ont besoin de changer, qui est la vision que je pose.
Monsieur le ministre, vous avez 10 secondes pour répondre à la dernière question avant d'entrer dans le dernier quart d'heure des matins du samedi. Faut-il éduquer les enfants à aimer la France ?
Bien sûr. Je le réponds alors en 10 secondes, oui. Et je pense que c'est quelque chose de naturel dans tous les pays du monde. Tout le monde fait ça. Et moi, j'ai vécu dans d'autres pays. Je suis toujours frappé du fait qu'une telle question fasse autant débat dans un pays comme la France, alors que c'est évident que nous devons aimer notre pays. Sinon, quel avenir pouvons-nous avoir si nous ne partageons pas l'amour de notre pays ? En plus, je le considère comme particulièrement aimable. J'aime viscéralement mon pays.
Vous avez répondu très bien. En un peu plus de 10 secondes, mais vous aurez... Enfin, pas vous, mais sur France Culture, on a quand même plus de temps pour répondre à cette question qui sera posée demain, évidemment. Ça n'était pas innocent de ma part. Qui sera posée demain, pendant une heure, dans Être et Savoir, l'émission de Louise Touré. Elle recevra l'historien Olivier Loubès. Vous restez avec nous donc pour le dernier quart d'heure de ces matins du samedi de France Culture. Monsieur le ministre, il est 8h47 sur France Culture.